Alors, je vous ai donné aujourd'hui donc le plan et les textes ensemble. Donc, voilà, je me suis amélioré par rapport à la dernière fois. La dernière fois, il y avait quelques textes, mais il n'y avait pas beaucoup de plans. Enfin, il y avait un plan. Bon, le plan, c'est la suite. Hein. En fait, on suit la messe, quoi. Bon. Donc nous entrons dans la deuxième partie de. Enfin, j'ai coupé en deux la prière eucharistique. Et donc, nous entrons dans ce qu'on appelle l'épiclèse sur les communions. La dernière fois, en fait, on avait travaillé sur eh bien, l'épiclèse, c'est-à-dire l'appel, hein, l'appel de l'Esprit Saint sur le pain et le vin, vous vous rappelez? Bon. Et donc, là, nous allons appeler l'Esprit Saint, pas sur le pain et le vin, mais sur nous-mêmes, sur l'Assemblée. Alors, on va lire ces épiclèses. J'ai pris les trois, enfin, la prière eucharistique 2, 4 et 3. La 1 aussi, c'est moins explicite dans la 1, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Et voilà, le but c'est de simplifier aussi un petit peu. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. La prière 4. Regarde Seigneur cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à ta gloire. Enfin, la 3. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Donc vous voyez, quand la transsubstantiation a été réalisée, hein, le changement de substance, le pain et le vin deviennent le corps et le sang, eh bien on demande que cette transformation aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans l'Église, jusque dans le corps. Ce n'est pas simplement Jésus qui est transformé, c'est aussi nous tous. D'accord? Cette transformation, elle va jusqu'au bout, cette sanctification, elle va jusqu'au bout, jusque dans l'Église elle-même. On voit bien les thèmes hein, dans ces épiclèses. On doit participer au corps et au sang du Christ. Ça veut dire que c'est vraiment lié au. Enfin, c'est quand même lié à ceux qui communient, quoi. Hein, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Bon, après, on invoque aussi l'Esprit Saint aussi pour ceux qui ne communient pas. Bon, il n'y a pas d'exclusion. Hein, faut pas non plus. Quand on dit une chose, on ne dit pas forcément l'inverse. Bon. Mais on se rend bien compte que ce qui va nous donner cet Esprit Saint, c'est en particulier l'Eucharistie. Hein? Puisque, ça on le voit bien dans la prière numéro 3, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps. Il y a un lien entre le corps et le sang et l'Esprit, hein? C'est plus visible dans la numéro 2, hein, la première. Hein. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. C'est parce que j'ai part au corps et au sang que je suis rassemblé par l'Esprit Saint. Alors, c'est quoi ce lien entre le sacrifice offert à Jésus et nous-mêmes, notre sanctification? Alors, je vous renvoie au texte numéro 2. Où déjà dans le livre des Maccabées, eh bien, il y a un lien entre les deux. Voyez la prière de Néhémie au jour de la purification du temple. Je lis. Seigneur, Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, redoutable, fort, juste, miséricordieux, le seul roi, le seul bon, le seul libéral, le seul juste, tout-puissant éternel, qui sauve Israël de tout mal, qui a fait de nos pères tes élus et les a sanctifiés. Reçois ce sacrifice pour ton peuple Israël. Garde ton héritage et sanctifie-le. Rassemble ceux d'entre nous qui sont dispersés. Délivre ceux qui sont en esclavage parmi les nations. Regarde favorablement ceux qui sont objets de mépris et d'abomination, afin que les nations reconnaissent que tu es notre Dieu. J'ai trouvé ça intéressant, cette prière, parce que j'ai l'impression qu'elle, en fait, elle résume toute la prière eucharistique. Vous avez en quelque sorte la préface, hein? Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, toi qui es bon, hein? Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, etc. Voilà, ça vous rappelle la préface. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous dit, voilà, reçois ce sacrifice pour ton peuple d'Israël. Donc là, on retrouve, hein. Reçois ce sacrifice pour ton peuple d'Israël. Comme nous-mêmes, nous offrons le sacrifice afin que, eh bien, nous soyons comme rassemblés. On rassemble ceux qui sont dispersés, on délivre ceux qui sont en esclavage. On a l'impression qu'on passe, comme dans la prière eucharistique, avec toutes les personnes. D'abord, il y a nous. Il faut qu'on soit une vivante offrande à ta gloire, qu'on soit sanctifié. Ensuite, il y a ceux qui sont au ciel. Il y a l'Église. Hein, il y a ceux qui ne te connaissent pas, voilà. Bon, donc il y a le peuple tout entier. Ça, vous voyez, cette intercession qu'on a dans la prière eucharistique, qu'on retrouve aussi dans la prière universelle, notamment le Vendredi Saint, où ça, cette prière universelle, elle va jusqu'au monde entier. Enfin, c'est extrêmement large. Bon, on voit bien qu'il y a un lien. Enfin, c'est ça que je voulais montrer, un lien entre l'offrande de Jésus. Hein? Reçois ce sacrifice pour ton peuple d'Israël. Le peuple, là, des Maccabées, fait un sacrifice. Et ce sacrifice, eh bien, il va permettre de rassembler ce que les personnes qui sont dispersées, qui sont en exil, reviennent. Il y a un lien entre l'offrande et le rassemblement. Et ce rassemblement, le but qu'on soit rassemblé, c'est pas tellement... qu'on soit rassemblé pour être rassemblé, mais qu'on fasse une éternelle offrande à ta gloire, c'est-à-dire que nous arrivions à nous offrir. Je donne un petit témoignage, mais qui me vient à l'instant, hein, pas prévu tout ça. On s'aperçoit que c'est plus facile de donner sa vie, d'accepter le martyr quand on est plusieurs. Oui, quand on c'est tout bête, mais quand on est en église, c'est plus facile de s'offrir, c'est plus facile de se donner. C'est plus facile de prier le matin si, je sais pas, moi, mon conjoint, il prie aussi. Oui, moi, avec le père Benoît, ben, tous les matins, on va à l'oratoire. Donc, s'il n'y va pas, je vais lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves plus? Ça va pas. Bon, mais il se lève et il va à l'oratoire parce que, voilà. Donc, parce que j'y vais, voilà.
Et inversement.
Et inversement. Oui, pardon. Et inversement, donc moi aussi. Bon. Pareil, oui, on a vécu, là, c'était intéressant, on a terminé là, une semaine de jeûne avec des paroissiens, et des paroissiens, plusieurs ont dit, en fait, on n'aurait pas pu vivre cette semaine si on n'avait pas été ensemble. Bon, voilà. J'avais parlé de l'offrande de soi, j'en ai beaucoup parlé, notamment à l'offertoire, donc je ne vais pas revenir sur l'offrande de soi. Mais le but de la messe, c'est que nous arrivions à nous offrir. Hein? Donc à donner tout, en fait. Hein? S'offrir, c'est tout donner. Voilà. Bon. Tout donner notre vie. Voilà. Donc. En résumé, vous voyez, les deux fruits de l'Eucharistie sont comme énoncés, l'unité de l'Église et l'offrande de ses membres. Hein. Les deux vont ensemble. Hein. C'est pas la peine d'être un groupe uni si on ne s'offre pas, c'est une bande de copains, c'est pas pareil. Voilà. Alors, du coup, j'essaie de comprendre ce mouvement. Il y a un don de l'Esprit Saint qui fait qu'on arrive à s'offrir. Et en même temps, il y a l'offrande de Jésus, voilà, qui retourne vers le Père, puisque la messe est une offrande du Christ qui va vraiment, comment dire, se réaliser de manière pleine ou s'achever, c'est plutôt le mot est achevé dans le parlu avec lui en lui, dans ce parlu avec lui en lui à la fin qu'on va voir. Mais voilà, on offre le Fils au Père. Il y a comme un mouvement en quelque sorte de montée et de descente. Alors, je vous invite à prendre le texte numéro 3 pour comprendre ce mouvement de montée et de descente. Hein, j'ai pris les Maccabées, c'est une chose, je prends un texte du Nouveau Testament pour comprendre et taper encore sur la même idée. Éphésiens 4. Il est monté, qu'est-ce à dire? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça, c'est le samedi saint dont on parle. Hein? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. D'accord? Donc vraiment, voilà, il monte, il s'offre, hein, dans cette montée. Bien sûr que c'est le mouvement de l'ascension, mais c'est aussi l'offrande de sa croix, enfin le sacrifice. Et on sait bien que dans le mouvement de l'ascension, quand Jésus monte, juste avant de partir, qu'est-ce qu'il dit? Je pars, mais je vais vous donner l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force. Restez, enfin restez éveillés. Bon. Voilà, au Cénacle. Donc, le mouvement de l'ascension attend un autre mouvement qui est la descente de l'Esprit Saint. Exactement comme ce qu'on dit dans l'Épiclèse, hein, sur les communions. Regarde ce sacrifice et que sur nous descende cet Esprit. Et donc, une fois, voyez que le don de l'Esprit Saint, on pourrait pratiquement imposer les mains sur l'assemblée, là. En disant, mais que cette assemblée devienne un seul corps, eh bien, on va ensuite nommer l'Église. Hein, et suivant les prières eucharistiques, donc je ne sais plus, il y a deux, je crois, eh bien, on commence par celle qui s'est offerte en premier, qui est la Vierge Marie. Puis ensuite, on passe aux saints et aux autres. Hein, on va nommer tous ceux, voilà, qui ont accueilli l'Esprit Saint pour nous faire, pour rentrer dans cette unité avec l'Église, avec eux-mêmes et s'offrir. Voilà. Donc j'ai mis, ah si, je voulais pas en parler, mais j'en parle un peu quand même. J'ai mis ensemble devenir une même offrande que le Christ. Le sacrifice, donc petit 1, le sacrifice de Jésus et le don de l'Esprit nous unit entre nous. Hein. Voilà ce que j'ai mis dans mon plan. Le sacrifice de Jésus et le don de l'Esprit nous unit entre nous. Enfin. En réfléchissant, je viens de prêcher un petit week-end à l'Esprit Saint, là, voilà, à tous ceux qui faisaient le parcours Saint-Marc, et je me disais, en fait, ce qui peut renouveler l'Église, c'est vraiment ce qui est au commencement de l'Église. Et ce qui est au commencement de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Donc, ce qui va faire l'unité dans l'Église, c'est pas tellement de faire des réunions, c'est pas tellement de faire des apéros et des dîners conviviaux. Ce qui va faire l'unité de l'Église, c'est en fait une même expérience de l'Esprit Saint. J'en suis de plus en plus convaincu. Le problème, et dans une paroisse, quand vous en avez qui viennent par habitude, bon, à la messe, mais par habitude, tu ne brûles pas encore de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on arrive à se comprendre, c'est qu'en fait, on a le même carburant. Vous saisissez ça? Bon. En fait, il faut prêcher sur l'Esprit Saint, je pense, enfin, davantage, en disant qu'est-ce que fait l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est qu'une église sans l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est qu'une église avec l'Esprit Saint, qu'est-ce que sont que les fruits de l'Esprit Saint, pour qu'on soit d'accord sur notre moteur. Parce qu'on peut très bien être dans l'église par générosité, Mais les disciples, ils sont très généreux, hein. Pierre, quand il dit à Jésus, tu sais, moi, je ne vais pas t'abandonner, qui tire son épée, il est très généreux, il est très dévoué. Oui, mais ce n'est pas charismatique, ce n'est pas l'Esprit Saint. Et du coup, il y a un hiatus entre ce que Jésus dit et ce que Pierre comprend. Jésus parle, il dit, voilà, je vais rentrer dans ma passion, je vais ressusciter. Pierre n'a pas l'Esprit Saint, il ne comprend pas les paroles. Je vais ressusciter. Alors du coup, il se pose la question, mais alors, d'entre nous, qui est le plus grand? Attendez, c'est ça vos questions? Je suis en train de vous parler de la résurrection, vous ne comprenez pas la résurrection, vous ne vous posez pas la question de ce qu'est la résurrection. C'est extrêmement passionnant de regarder pas à pas l'Évangile en voyant ce que c'est qu'un disciple qui n'a pas l'Esprit Saint, comment il comprend les choses, comment il comprend de travers. Voilà. L'Esprit Saint donne du courage, l'Esprit Saint nous permet de nous offrir, d'aller jusqu'au bout, d'être martyr, tout, enfin, d'arrêter de râler, tout, enfin, l'Esprit Saint rend petit, l'Esprit Saint pardonne. Enfin, donc, voilà, enfin, moi j'ai perçu ça là 15 jours, là, je me dis, je m'aurai, c'est dans quelques années, quand j'aurai un peu plus d'expérience, de passer de diocèse en diocèse et de paroisse en paroisse. Pour prêcher les week-ends à l'Esprit Saint, pour que les gens apprennent à prier ensemble tout simplement, etc. Enfin, ça serait, voilà. Puis je serais avec les bouchers, tout ça, on partirait. On serait dans une mission itinérante. Voilà. Bon. Vous avez bien remarqué l'ordre des épiclèses, hein? C'est d'abord, donc, on offre la victime, et ensuite, on est unis dans le même esprit. Il y a un ordre, hein? Comme les commandements, hein. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est toujours l'amour de Dieu, notre communion à Dieu qui nous montre notre juste rapport aux autres et qui fait que l'unité, elle n'est pas une unité fabriquée. Vous voyez, voilà. Bon. Voilà. Je continue lors des épiclèses, ça je l'ai dit. Et puis je fais un petit rappel, mon petit 3. Hein. L'Esprit Saint est don de Dieu et capacité en nous de nous offrir. L'Esprit Saint, oui d'accord, il va nous unifier. Avant la Pentecôte, les disciples ne sont pas unis. Ok, ils se disputent, ils veulent savoir qui est la première place. Après la Pentecôte, on nous dit, ils ont un seul cœur, une seule âme, ils mettaient tout en commun. D'accord. Bon. Ok, il y a une unité. Ça, c'est un premier fruit de l'Esprit Saint. Le deuxième fruit, enfin, il y en a plein d'autres, mais c'est que l'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Fils et le Père. D'accord? Cet amour nous est donné. Mais cet amour nous est donné pour aimer. Je redis toujours un peu la même chose, en fait, différemment, mais et je vais prendre un exemple très concret avec la petite Thérèse. Si vous voulez, quand vous aimez un enfant, bon, vous l'aimez, mais l'aimer, en fait, c'est le rendre capable d'aimer à son tour, de la force, donc, ben, et plus vous l'avez aimé, enfin, bon, ben, c'est pas aussi mathématique que ça, parce que, mais j'ai envie de dire, un enfant qui a été bien aimé, il a normalement un réservoir d'amour qui lui permet d'aimer à son tour. Et l'éducation est réussie quand il est capable justement d'aimer les autres, quoi, de se donner. On voit bien les enfants, par exemple, qui ont été très blessés, etc. Ils manquent de confiance, ils ont du mal à s'aventurer, ils ont du mal à servir, tout est une affaire d'État, etc. Bon, voilà. Donc, quand on est bien construit en général, on a envie, on est capable, voyez, de se donner. Donc c'est ça, voyez, l'Esprit Saint, il est pas simplement l'amour que Dieu a pour nous. Il est aussi l'amour de Dieu lui-même qui nous donne, que nous possédons pour l'aimer lui et aimer le monde. Hein? Jean 17, 26, je crois, de mémoire, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et Dieu ne nous maintient pas comme ça, à distance. Je vous aime, vous ne pouvez pas tellement m'aimer, vous, hein? Vous êtes des petits êtres avec pas beaucoup de capacités, vous ne pouvez pas m'aimer, mais enfin, vous pouvez faire quelques sacrifices, et voilà. Non, non. Je vais vous donner mon esprit, le même esprit que Jésus, pour que vous m'aimiez, que vous aimiez le monde comme le Christ m'aime et aime le monde. Et aimer quelqu'un, ce n'est pas le tenir à distance. Aimer quelqu'un, c'est le mettre à notre niveau. Alors, je prends un texte que vous n'avez pas, mais que vous avez dans les manuscrits autobiographiques. J'espère que tout le monde a les manuscrits autobiographiques de la petite Thérèse. Si vous ne l'avez pas, vous l'achetez sur Amazon à 3 euros, ou Price Minister, ou la procure à Vannes. Mais ça sera neuf, hein, à Vannes. Bon. Alors, je lis la petite Thérèse, une histoire, je crois que je ne l'ai jamais lue encore ici, hein. Grâce de Noël. Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot, la grâce de ma complète conversion. Intéressant. Conversion. Hein? Le pape François, il dit, il faut passer à une conversion missionnaire. Il faut se convertir. Comment toi, tu es passé, Thérèse? Comment tu t'es converti? Alors, nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. Donc elle est en train de faire référence à la communion. C'est intéressant pour ce qu'on vient de dire sur la communion d'abord et l'unité entre nous, hein? D'accord? Je venais de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait à voir mon bonheur, à entendre mes cris de joie, en tirant chaque surprise des souliers enchantés, et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Vous avez compris, la petite Thérèse est une fille un peu fragile. Sa mère est décédée très jeune, on lui a plus ou moins caché le décès. Ensuite, sa grande sœur est rentrée au Carmel, sa grande sœur qui était sa seconde mère, ça a été un nouveau déchirement. Donc voilà, elle a un côté un petit peu dépressif, un peu compliqué, voilà. Et quand elle va rentrer dans la voie de l'enfance, ce qu'elle appelle la voie de l'enfance, c'est en fait la voie adulte, hein, l'abandon, la confiance, la voie de l'enfance, eh bien c'est justement sortir de l'enfance, comme elle le dit. Alors, ce qui a provoqué, ce qui a été le dard, le nouveau dard dans le cœur de Thérèse, c'est papa. Et je lis ce qu'on dit de papa. Il permit, donc le bon Dieu, que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Ras-le-bol le père, hein. Ces enfantillages et ces trucs-là de bon. Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité, voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Oh, Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets en ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait. Il était aussi redevenu joyeux et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, donc là ça y est, elle réfléchit maintenant à ce qui s'est passé en elle, elle prend du recul. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Cette bonne volonté, c'est refoulant mes larmes, non, comprimant les battements de mon cœur et refoulant mes larmes. Elle peut très bien pleurer. Elle sait qu'elle y arrive, que ça va monter, qu'elle peut. Mais elle dit non, j'arrête. Bonne volonté. Elle continue. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire, Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pécheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. Voilà, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. C'est quoi la charité? C'est l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5, 5. Et depuis lors, eh bien, cette charité rentre dans son cœur, donc elle va aimer de l'amour même de Dieu. Du coup, elle a le besoin de s'oublier et elle a envie d'évangéliser. Il fit de moi un pécheur d'âme. Elle a envie d'être pour les autres. Oui? Cet amour de Dieu qui descend dans notre cœur nous permet d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Dieu nous donne son amour pour nous donner nous-mêmes. Ça va? Voilà, vous avez une illustration de ce que ça veut dire recevoir l'amour de Dieu pour devenir une offrande. Elle s'offre totalement, hein? Elle parle du besoin de s'oublier. Le besoin de m'oublier, qu'est-ce que c'est sinon l'offrande? Vous imaginez si dans l'église, tous ceux qui travaillaient dans l'église, bénévoles ou salariés, avaient le besoin de s'oublier. C'est pas mal, hein? Je pense à tous ceux, par exemple, dans les diocèses, parce que je discutais avec celui qui faisait l'invisible, vous savez, le journal. L'invisible, c'est un journal, en fait, qui a dit, enfin, qui a réfléchi en disant, il faut qu'on donne des informations sur nos paroisses et tout ça. Et en même temps, faut pas non plus qu'on reste dans un bocal. Donc, il faut que le journal, il donne des informations et qu'il soit en même temps missionnaire. Ah! Donc, on va faire un journal avec les deux. Donc, on va faire des trucs de psychologie, puis en même temps, on mettra les photos de la paroisse, et on va mélanger les deux. Et on pourrait peut-être le proposer à des tas de diocèses, qui est des tas de diocèses qui ont des journaux. Mais c'est des journaux toujours qui parlent de ce qui se passe dans l'église, qui ne sont pas missionnaires. On va raconter le pardon à tel endroit, on va raconter je sais pas quoi, Noël machin, on va raconter le parcours Saint-Marc. Très bien, mais les gens qui ne sont pas chrétiens, on ne peut pas leur donner le journal-là. Donc, ils me disent, le gars de l'invisible, vous appelez certains diocèses, vous leur proposez que leur journal continue, mais qu'en plus on maigrisse, on lui fasse une cure d'amaigrissement parce qu'il y a certains articles qui en fait sont pas finalement très intéressants, puis qu'on rajoute des trucs un petit peu évangélisateurs. Mais vous voyez, là, ça demande une conversion pastorale. Quand ça fait 20 ans que vous occupez du journal diocésain ou du journal paroissial, je ne sais pas quoi, quoi? Changer? Non, vous inquiétez pas, ça va vous demander autant de travail parce que toutes les pages locales, c'est vous qui les ferez. Il y en a qui ne peuvent pas. Voilà. Donc c'est très. Alors je prends ça comme exemple du journal, mais je peux prendre une activité, je peux prendre une association, tout, tout. L'offrande de soi, c'est extrêmement large hein, comme notion. Alors, je donne toujours des trucs un peu concrets, parce que sinon, bon. Alors, du coup, j'en arrive au grand B, ensemble devenir un seul corps avec le Christ. Si l'Eucharistie consacre l'unité du corps du Christ, nos divisions deviennent une abomination. En fait, on n'arrête pas de supplier le Seigneur pour qu'il fasse de nous un seul corps. Et tout d'un coup, je réalise, mais je me dis, ah oui, mais en fait, du coup, ça impose que humainement, qu'il n'y ait pas de division dans la communauté. Et donc, j'aborde deux questions, la question des divorcés et remariés et la question du pardon. Alors, Donc, sans porter du tout de jugement sur le, sur le péché, voyez, sur la rupture de personnes divorcées, remariées, je suis quand même obligé de dire objectivement qu'extérieurement, du fait d'un remariage civil entre des personnes, eh bien des personnes qui avaient promis, voyez, une union, une communion pour toujours, eh bien, ont entériné une division. Qu'est-ce que c'est que se remarier à la mairie? C'est dire, pour toujours, je ne serai plus en communion avec celui avec qui j'ai décidé d'être en communion. Vous comprenez la chose? C'est pour ça que ce n'est pas pareil que l'adultère. L'adultère, c'est une faute. J'ai débloqué, j'ai été. J'ai une aventure parce qu'en entreprise, on a fait un séminaire, je ne sais pas quoi, dans un hôtel, et puis bon, je me suis fait avoir. Mais au fond de mon cœur, c'est pas pareil, je vais revenir avec mon épouse, bon, ou mon époux. Mais là, c'est pas pareil. Vous voyez, je décide que cette rupture sera pour toujours, qu'elle va durer dans le temps. Et donc, je vais m'enfermer en quelque sorte dans cette division. Alors, du coup, on ne peut pas être à la fois en unité avec le corps du Christ et en division avec le corps du Christ. Alors, le problème, il est où dans l'Église? C'est que certains reçoivent le sacrement de mariage alors qu'ils n'ont pas la foi. En fait, c'est ça le problème. C'est que vous donnez un sacrement à des gens qui n'ont pas la foi. Vous leur dites, vous allez être fidèles avec la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis, enfin, ils n'ont pas la conscience, vous voyez, ce qu'on appelle l'oubli de soi, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. La question de l'oubli de soi, ils ne sont pas du tout au clair là-dessus. Ce n'est pas très mature, on a des personnes plus blessées maintenant, enfin, parce qu'on a, il y a, je sais pas quoi, enfin, en France, il y a un couple sur trois qui est séparé, etc. Bon. On est moins dans une morale de l'obligation, qui avait ses limites, mais qui avait ses avantages aussi. C'est un peu de l'effort, c'est-à-dire que le fils aîné qui reste à la maison, bah, il n'aime pas trop son père, mais enfin bon, il est un bon serviteur. Mais comme on est beaucoup dans l'affectif, la vérité n'intéresse pas les gens, hein. Ce qui intéresse les gens, c'est le je sens. Bon, là, vous êtes en train de me parler de Dieu qui existe, moi je ne le sens pas. Mais objectivement, il y a des preuves de la résurrection, il y a des événements. Oui, mais ce n'est pas mon truc en ce moment. Bon, alors, le senti, le ressenti, c'est compliqué, quoi, parce que du coup, on va pas très très loin. Bon. Voilà pourquoi il y a quelque chose, vous voyez, voilà la question des divorcés et remariés. La question du divorce, vous voyez, quelqu'un qui est divorcé et qui n'est pas remarié, il n'y a pas de problème. Dans le sens, bon. Parce que justement, le fait qu'il ne soit pas remarié, eh bien, il dit son désir de durer. Il y a une espérance. Bon. Même si objectivement, parfois, on se dit, mais non, ça ne pourra pas se faire parce que, je sais pas, bon, l'autre est trop loin, l'autre, bon. Mais objectivement, il y a un témoignage pour la communauté. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas remarié, il est dans sa tête à dire je vais un jour revenir avec lui. Il sait bien qu'il ne va pas revenir avec lui ou revenir avec elle. Mais il sait bien que son mariage était juste à la base. Il était valide. Donc voilà. Et donc oui, il va témoigner par ce célibat de cette communion qui est gardée. Voilà. Puis il y a encore ceux qui se sont mariés et qui ont ce qu'on appelle. En fait, qu'ils ne se sont pas vraiment mariés. En fait, ils croient être mariés, mais ils ne le sont pas parce qu'objectivement, il y a en fait des éléments qui manquent au mariage, qui sont la liberté, qui sont la fidélité, l'indissolubilité, par exemple, ou un manque de maturité, ou enfin, il y a plein de cas. Et donc, quand quelqu'un vient au diocèse en disant, moi, à mon avis, mon mariage n'est pas juste, il est nul, alors les gens disent annuler, on n'annule pas un mariage. Hein. Il y a un mariage ou il n'y a pas de mariage. Mais ils vont dire, voilà, nous, à notre avis, en fait, on s'est mariés, mais moi, ça a été très vite. D'abord, j'étais enceinte, donc j'ai voulu me marier parce que je me suis dit, voilà, pour la famille, c'est mieux. Et puis, finalement, ce conjoint, je n'ai pas vraiment choisi, et puis ceci, puis cela. Du coup, voilà, l'Église va dire, en fait, vous n'avez jamais reçu de sacrement. Du coup, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre. Vous pouvez vous marier vraiment avec quelqu'un d'autre si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou être libéré par rapport à un poids, etc. Bon. Voilà. Ça, c'est la question. Alors, la deuxième question, c'est, je pense, pour beaucoup d'entre nous, c'est la question du pardon. Hein? Si je suis en train de demander l'unité dans la communauté, ben, il faut que dans cette communauté, on ne se fasse pas la gueule et qu'on se pardonne. Hein? La communauté n'est pas un lieu de non-agression, mais un lieu de pardon. Aimer un couple qui s'aime, c'est un couple qui s'engage à se pardonner quotidiennement. Aimer, c'est s'engager à se pardonner. Une communauté, si elle veut vivre, il faut qu'elle s'engage à se pardonner. Et du coup, la communauté en elle-même est un témoignage. Comment se fait-il que ces personnes-là arrivent à vivre ensemble, à rester ensemble, à travailler ensemble, à aimer le bon Dieu ensemble? Ils sont tellement différents. La différence, l'originalité de chacun devient un témoignage pour le monde. Hein. Acte 2, 42, hein, ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, ils mettaient tout en commun et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc je me rends compte que dans la communauté, tu vois, celui qui me, enfin, avec lequel j'ai plus de mal, j'accepte mystérieurement que c'est lui qui va me conduire au Christ. C'est pas forcément, vous voyez, le meilleur copain, parce que le meilleur copain, c'est pas celui forcément qui nous conduit à Dieu. Le meilleur copain, c'est celui qui nous conforte, c'est celui avec qui on prend du plaisir, enfin une certaine joie. Mais quand saint Paul parle de l'écharde dans sa chair, hein, bon, j'ai une écharde dans ma chair, à trois reprises j'ai demandé qu'elle soit enlevée, bon. C'est peut-être qu'il a une petite maladie, mais c'est peut-être aussi qu'il a quelqu'un dans sa communauté qui ne supporte pas. Et on voit bien comment Paul se dispute avec Marc à un moment donné. Dans la communauté, c'est jamais terrible. Puis il y a l'histoire d'Apollos qui est là, dans le début de la lettre aux Corinthiens, enfin bref. Et donc avec ces gens un petit peu boiteux, eh bien Paul arrive à construire l'Église, à répandre l'Évangile. Et d'une certaine manière, les gens un petit peu boiteux, les personnes avec qui on a plus de mal, il me semble que ce sont elles, en fait, qui nous convertissent le plus. Ce n'est pas forcément les meilleurs amis qui nous convertissent le plus. Donc voilà. Et du coup, il faudrait travailler sur le pardon. Malheureusement, voilà, enfin, on n'a pas le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Comment on pardonne? Est-ce qu'il faut tout dire? Bon. Voilà, je vous renvoie à des bons livres là-dessus, notamment un livre de Jean Monbourquette sur le pardon en 10 points. Il est pas mal du tout. Voilà. Mais c'est important de comprendre, vous voyez, cette unité que va faire l'Esprit Saint, mais qui demande au préalable, eh bien, une unité dans la communauté. De même que le don de l'Esprit Saint, chez la petite Thérèse, demandait au préalable, mystérieusement, sa bonne volonté. Hein? Jésus, se contentant de ma bonne volonté, eh bien, transforma ma vie et la charité entra dans mon cœur. Se pardonner en communauté, arrêter de faire la tête et accepter de, je sais pas quoi, au repas paroissial, de déjeuner avec pas que tout le temps les mêmes personnes qu'on voit chaque semaine, mais des gens différents qu'on va accueillir. Enfin, vous voyez, c'est très large. Hein. Eh bien, ça, c'est notre bonne volonté. Vous voyez, on joue le jeu du truc, de la communauté, du pardon. Et ensuite, eh bien, le Seigneur, il achève, hein, ce qu'il a commencé. Ça va? C'est dans les deux, il y a deux moments. Alors ensuite, nous entrons dans les intercessions. Hein? Voilà. Les intercessions sont comme un développement de l'épiclèse. Donc, on va nommer, on va prier pour l'ensemble de l'Église jusqu'à l'ensemble de l'humanité. Ça va être toute l'Église, celle du ciel, celle de la terre, qui est prise ensemble, qui est priée, qui va être unie à l'intercession du Sauveur. Et donc, voilà, cette intercession, on va la placer dans le cœur du Christ, dans l'efficacité de son intercession à lui. Alors, dans l'ordre, nous commençons par l'Église tout entière, le pape, les évêques, les laïcs. D'accord? Ce qui veut dire dès le départ que, voyez, notre communion, elle est une communion à l'Église aussi. Hein? On est en communion parce qu'on est en communion entre nous, qu'on se pardonne, bien sûr, tout ça, mais aussi parce qu'on est en communion avec, avec l'Église, avec notre pape, avec nos évêques, voilà, qu'on va nommer à chaque fois. Bon. Et puis, on va nommer ensuite les défunts. Voilà. Avec un développement très large, notamment pour les messes des défunts, dans la prière eucharistique numéro 3. C'est vraiment, il est tellement beau cette. C'est pour ça que quand je fais un enterrement, souvent je prends la 3. Qu'est-ce qu'on dit pour les défunts? Souviens-toi de Judith que tu as appelée auprès de toi aujourd'hui, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, etc. Et c'est assez long, mais c'est très très beau. Voilà. Hein, donc voyez le déroulement. Hein, que l'Esprit Saint de nous fasse de nous une éternelle offrande. Je continue. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, eh bien, réconcilie avec toi le monde entier, affermis la foi, la charité de ton Église, veille sur ton pape. Ça, vous l'avez pas, hein. Je vous lis ce que vous avez dans, ce que j'ai dans le missel, que vous avez dans tous vos magnificat. Veille sur ton pape François, notre évêque. Ensuite, souviens-toi de ceux qui sont là, de ta famille assemblée devant toi. Et puis, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde. Voilà. Je vous ai lu rapidement la fin de la prière eucharistique. Alors. Je voudrais m'arrêter davantage sur le sacrifice pour les morts et pour les vivants. Je lis donc, qu'est-ce que ça veut dire de prier pour les défunts? On se rend bien compte que, en fait, la part, je vois bien dans les messes qui sont dites, par exemple, il y a beaucoup plus de messes qui sont dites pour les morts que pour les vivants. Dans le sens que, c'est pas mauvais, c'est pas un reproche hein, du tout, hein, mais dans le sens qu'on a rapidement dans l'Église compris que la messe avait un rôle d'intercession pour les morts. Très fort. Voilà. Alors, je lis donc le texte numéro 4, là. Le catéchisme. Lorsque la célébration a lieu dans l'Église, l'Eucharistie est le cœur de la réalité pascale de la mort chrétienne. C'est alors que l'Église exprime sa communion efficace avec le défunt. Deux points. Offrant au Père dans l'Esprit Saint le sacrifice de la mort et de la résurrection du Christ, elle lui demande que son enfant soit purifié de ses péchés et de ses conséquences, et qu'il soit admis à la plénitude pascale de la table du royaume. C'est par l'Eucharistie ainsi célébré que la communauté des fidèles, spécialement la famille du défunt, apprend à vivre en communion avec celui qui s'est endormi dans le Seigneur, en communion au corps du Christ, dont il est membre vivant, et en priant ensuite pour lui et avec lui. Donc, vous voyez, on nous dit, c'est toujours la question quand vous faites l'équipe funéraille, les gens vous disent, mais enfin, ils ne vous le disent pas, mais ils le pensent. En tout cas, ils mettent beaucoup de fleurs pour montrer qu'ils aiment celui qui est perdu. Ils veulent le retrouver, donc ils vont garder un petit peu la chambre, à un moment donné comme elle était, puis ensuite ils passent à autre chose. Bon. Comment retrouver, comment être en communion avec le défunt? Là, vous ne pouvez pas avoir plus clair. L'Église vous dit, Eh bien, pour être en communion, pour être relié avec le défunt, on n'invoque pas les morts au sens malsain du terme, vous voyez ce que je veux dire, hein? En fait, on va à la messe et on communie. Voilà. L'Église exprime sa communion efficace avec le défunt. Et, vous voyez, il y a cette compassion dans le catéchisme, hein? Spécialement, la famille du défunt apprend à vivre en communion avec celui qui s'est endormi. Elle va apprendre d'Eucharistie en Eucharistie, et le catéchisme explique pourquoi, en communion au corps du Christ dont il est membre vivant. En fait, il est membre du corps du Christ. Donc, ça veut dire que quand je communie à la messe, à l'hostie, vous ne pouvez pas séparer la tête du corps. Je ne peux pas communier à Jésus dans sa gloire sans communier à son corps. Rappelez-vous ce qu'on vient de lire dans l'épître aux Éphésiens. Hein? Il est monté au ciel pour remplir toutes choses, pour en quelque sorte achever son corps, faire entrer son corps dans la gloire. D'accord? Bon. Voilà, donc le lieu pour retrouver celui qui est perdu, eh bien, c'est la messe. Donc, je dis ça pour ceux qui s'occupent des funérailles. Il y en a plusieurs parmi nous. Voilà, il faudrait peut-être qu'on pourrait leur donner ça d'ailleurs. Parce que c'est pas très compliqué comme texte. Si on explique ce texte avec eux, en prenant à côté, voilà. Je sais pas. Bon, on peut essayer, ça marche pas, on arrête. Bon. Alors, deuxième témoignage. Ça va, il me reste encore un quart d'heure. Hein. La messe pour les vivants. Hein? C'est intéressant en quoi elle est efficace aussi pour les vivants. Donc là, je vous lis ce témoignage de. Donc là, c'est le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine qui parle de sa maman. Non, de son papa, pardon. Voilà, le texte en dessous. Mon père connut une aggravation du terrible mal qui, depuis 2 ans, le rongeait. Soutenu par mon frère, il continuait son chemin. Avec un courage impressionnant, ne s'écoutant pas, marchant de traitement en traitement, sans émettre la moindre plainte. Un jour, je reçois de lui un coup de téléphone. C'était pratiquement de l'ordre de l'impossible, car vu l'état du réseau, il était très difficile de se joindre. J'entends la voix paternelle se répandre en de brèves questions, se préoccupant de savoir si tout allait bien, si je ne manquais de rien, si je parvenais à combattre le froid, si la nourriture était suffisante, etc. Puis, soudainement, mon père me lança ces mots. Tu sais, c'est peut-être la dernière fois que nous nous entendons, car je sens très bien que je suis en train de perdre l'usage de la parole. Mais surtout, ne t'inquiète pas, l'essentiel, c'est que toi, tu ailles bien. À cette annonce, ma gorge se noua en une seconde, et après avoir posé l'écouteur. Ne pouvant agir d'aucune manière, j'étais si loin, aux prises avec un désarroi déjà tenace, étrangement, j'ai tout de suite repensé à l'église de San Andrea del Frate, où la Sainte Vierge était apparue à Ratisbonne. Vous en souvenez? Là où le père Kolb avait célébré sa première messe. Je me suis souvenu que mon père, en visite à Rome, avait beaucoup aimé ce lieu et s'était écrié: Enfin un autel où le tableau de la Vierge est au centre, au-dessus du tabernacle. Et le père Michel-Marie Zanotti, justement, donc sa paroisse de Marseille, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a mis au-dessus de la chaire? Eh bien, il a mis une très belle icône de la Vierge, voilà, voulant consacrer son ministère à Marie. Donc voilà, son père s'est écrié cela quand il se souvient de son passage à Rome. Immédiatement, je téléphonais à l'un de mes frères franciscains de Rome, le frère Vincent Cosati, en lui demandant de se rendre dans cette église et de faire célébrer 12 messes pour mon père. Aussitôt dit, aussitôt fait. Comme il se doit, l'amitié est divinement nouée. Un mois plus tard, mon père, au bout du fil, étrangement serein et même joyeux. Sachant, me dit-il, que tous mes cheveux allaient tomber sous l'effet du traitement, je suis allé chez mon coiffeur pour préparer l'épreuve en les faisant couper très court. Et là, je ne saurais l'expliquer. Pendant qu'il me coupait les cheveux, j'ai pensé à la Vierge. Mais tu sais, celle que nous avions priée ensemble dans l'église où elle est apparue à Ratisbonne. Et immédiatement, je me suis senti mieux, et depuis cela va très bien. Vous imaginez ma stupéfaction en entendant ces paroles, surtout que mon père n'était absolument pas au courant de ma démarche. À partir de ce jour, ma confiance en la valeur propitiatoire de l'Eucharistie s'est décuplée. Et c'est pourquoi j'invite sans cesse les fidèles, y compris les infidèles, à faire célébrer les messes à l'intention de leurs vivants et de leurs morts. Mais quoi, c'est évident. Appliquer le sacrifice du Christ, c'est-à-dire sa douloureuse passion et sa mort, atroce et imbibée d'amour, la mort d'un Dieu à une âme, demeure le chemin royal qui ouvre au bonheur le plus sûr. Mais nous manquons de foi, et en pataugeant de la sorte entre le doute et la semi-confiance, on n'obtient rien. Voilà. Je passe maintenant à l'intercession pour nous, dans l'espérance de la communion des saints. Donc, qu'est-ce que c'est que cette intercession pour nous, hein, mon grand C? Eh bien, je vous ai mis le texte. Hein, une fois que nous avons prié pour les morts, eh bien, on continue. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus le Christ, notre Seigneur. Fin de la prière eucharistique numéro 1. Prenons la 2. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Voilà. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Ton Fils bien-aimé. Dans la prière eucharistique numéro 3, voilà, on parle de nous où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Et la 4, à nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur. Bon. Donc, voyez, on termine par nous. Et petit détail, vous voyez, alors dans la prière eucharistique numéro 1, on va énumérer toute la série des saints. Vous avez sept hommes et sept femmes dans cette série de saints, dans cette prière eucharistique numéro 1 que vous avez. Pourquoi sept? Eh bien, parce que sept, c'est un chiffre qui signifie une plénitude. Voilà, tout simplement. Donc on est en train de nous dire, mais nous, voilà, un petit peu comme dans le baptême des adultes, ou des enfants d'ailleurs, quand on fait la litanie des saints, nous voulons être associés à cette gloire, nous voulons entrer aussi dans ton royaume, nous voulons être une éternelle offrande à ta gloire. Voilà. Accorde-nous, voilà, cet héritage. Nous nous présentons à la miséricorde de Dieu, à la bonté de Dieu aussi. Dans la prière eucharistique, nous implorons la bonté de Dieu. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Voilà. Alors, ça résume un petit peu, vous voyez, le mouvement de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. On nous parle de quoi? D'une foule que nul ne peut dénombrer. Cette foule innombrable qui apparaît aux voyants de l'Apocalypse a beaucoup de points en commun avec notre assemblée eucharistique Elle est debout, nous dit l'Apocalypse, devant le trône et devant l'agneau, comme nous sommes devant l'autel et l'agneau de Dieu qui s'y est rendu présent. Ils sont vêtus de robes blanches lavées dans le sang de l'agneau, comme le sont les ministres de la liturgie eucharistique, représentant tous les baptisés. Enfin, ils concluent leur acclamation par une doxologie qui ressemble fort à celle de notre prière eucharistique. Ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. » Voilà, nous espérons cette gloire et nous proclamons ta gloire. Et du coup, ça fait le lien avec la doxologie, ce qu'on appelle le Père Ipsum. Voilà, nous avons repris toute l'Église, les vivants, les morts, l'Église du ciel, l'Église de la terre, nous-mêmes. Nous demandons que tout ce monde-là soit récapitulé, soit rassemblé pour faire un seul corps avec le Christ, dans une unité parfaite, une communion parfaite. Tout ça, nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Plus exactement, si on développe ce « par Jésus-Christ », ça va devenir « par lui ». Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà ce qu'on appelle le Père Ipsum, voilà, ou la doxologie finale. Donc vous voyez, là c'est pas simplement les personnes qui sont évoquées, c'est pas une gloire... Enfin, voilà, sens une puissance de Dieu, une gloire de Dieu qui s'étend simplement aux personnes, mais ça s'étend aussi à tous les siècles. Et là, nous sommes dans l'offrande vraiment du Fils au Père. En fait, le moment le plus important de la messe, quitte à choquer quelques-uns, eh bien, c'est la doxologie, c'est ce par lui, avec lui et en lui. Pourquoi c'est plus important? Pourquoi c'est pas la consécration? Parce que c'est ce moment où nous offrons le sacrifice. On offre le sacrifice au Père et on va le faire dans ce mouvement en élevant le pain et le vin qui sont le corps et le sang de Jésus. On n'est pas d'ailleurs obligé de montrer l'hostie. Les prêtres qui montrent l'hostie. Pourquoi c'est pas important de montrer l'hostie? Parce que c'est pas pour nous ce moment-là. Il est pour le Père. Quand vous faites un sacrifice dans l'Ancien Testament, vous avez plusieurs moments. Vous avez le moment où on rassemble les agneaux, les bêtes, bon, première étape. Vous avez le deuxième moment, on va les immoler, deuxième étape. Troisième moment, on va les mettre, voyez, on va les présenter à Dieu. Voilà, on va les offrir à Dieu. Et le quatrième moment, on va les consommer. On consomme. Vous voyez, la communion, on va en parler, là on aura le Notre Père avant. On en parlera dans 15, enfin voilà, dans longtemps. Mais le plus important dans un sacrifice, c'est pas tellement la communion pour un sacrifice juif. Le plus important, c'est d'offrir la bête. Le sacrifice d'Abraham, c'est faut que tu offres ton enfant, ton unique, vous voyez. Bon. Voilà. Alors, vous voyez, on termine ce mouvement. Au début de la prière eucharistique, on partait du Père. Et on revient là au Père, hein, par lui, avec lui et en lui, par le Christ, avec le Christ, dans le Christ, à toi Dieu le Père. Hein. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, voilà, début de la préface, début de la prière eucharistique, et on termine notre prière eucharistique au Père. Toute la messe est pour le Père. On parle de doxologie. Hein. Pourquoi doxologie? Ça veut dire parole de gloire. Parole de gloire. Le prêtre adresse au Père une parole de gloire, c'est-à-dire une parole digne de son nom, capable de rejoindre et de toucher son cœur divin. N'oubliez pas que l'homme est fâché avec le Père. C'est ce que nous dit l'Écriture, on n'est pas fâché avec Jésus, hein. On est fâché avec le Père. Dans la Genèse, l'homme ne veut pas du Père. Et donc, Jésus va nous réconcilier avec le Père comme notre frère. Mais Jésus, c'est le réconciliateur, c'est le rédempteur. Voilà, c'est lui qui fait le lien entre nous et le Père. On va donc On reçoit ces offrandes. Dans l'ancienne alliance, on devait présenter les offrandes, les balancer devant Dieu. Ce mouvement d'élévation se retrouve dans l'Ancien Testament. Vous l'avez par exemple en Exode 29, 29-24. Exode 29, 24, 26. Enfin, chapitre 29, versets 24 et 26. Je lis. Tu placeras le tout sur les paumes d'Aaron et les paumes de ses fils. Et tu feras le geste de présentation devant le Seigneur. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture d'Aaron, et tu feras avec elle le geste de la présentation devant le Seigneur. Voilà, présentation. Et alors à ce moment-là, on a présenté l'offrande, et l'assemblée va dire Amen. Un Amen sonore. C'est-à-dire un consentement à toute la prière eucharistique, à tout ce que nous avons vécu, à tout ce que nous avons dit. Oui, nous voulons offrir ce sacrifice. Oui, nous voulons nous offrir avec. Oui, nous croyons que ce sacrifice est l'union entre le ciel et la terre. Oui, nous croyons qu'il est le rédempteur. Oui, nous croyons, enfin tout. C'est l'amen le plus sonore. C'est pour ça que même des fois l'organiste aime bien faire le triple amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc voilà. Se parler avec lui en lui, à une époque, les laïcs le disaient, parce que je sais pas pourquoi, mais s'ils disent le parler avec lui en lui, ils peuvent dire toute la prière eucharistique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une phrase qui est propre au prêtre. Sinon, on dit toute la prière. Alors, je termine avec par lui, avec lui, en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce par lui? Par lui, ça veut dire que c'est par le Christ que l'offrande est parfaite. Tout ce qu'on fait, on le fait par le Christ, notre Seigneur. C'est toutes les fins de prière. Nous te le demandons par Jésus-Christ. On ne peut pas aller au Père sans prendre le chemin. Jésus est le chemin, Jean 14, 6. Il est le grand prêtre, Hébreux 7, 25. Voilà. Tout ce que je le fais par lui. Romains 16, 27. À Dieu qui seul est sage, par Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Voilà, je passe par lui. Ensuite, avec lui. La vie chrétienne, c'est d'être avec le Christ. Jésus n'est pas simplement un chemin, comment dire, une route à suivre, un exemple, un moyen. Je suis aussi appelé à faire un seul être avec le Christ. Je suis avec lui. Regardez 2 Timothée 2,11. 2 Timothée 2,11. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Tiens, me vient une référence en tête là, tout d'un coup. Jean 12. C'est l'évangile de dimanche prochain. Vous verrez bien dans dimanche prochain, Jean 12, en fait, c'est très très beau, parce que Jésus parle de lui, en fait, en disant, le grain de blé doit mourir et tomber en terre. Hein? Ça vous dit quelque chose, hein? Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. On sait très bien que là, il parle de lui. Il va être ce grain qui va tomber en terre. Et ensuite, il dit, si quelqu'un me sert, là, je ne sais plus ce qu'il dit, si quelqu'un me sert, qu'il perde sa vie et qu'il me suive, etc. Qu'il devienne lui-même un grain tombé en terre dans l'évangile. Non. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Point. Donc là, il parle de lui. Tout d'un coup, juste après, enfin. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis moi aussi, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, vous voyez, c'est pas deux phrases plus loin, c'est tout de suite. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera. Donc on signifie bien que nous devons faire comme Jésus, être comme lui. par lui, avec lui. Nous sommes avec lui en tout. Colossiens 2,12. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru en la force du Dieu qui l'a ressuscité des morts. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui. Ça a des conséquences pastorales assez importantes, par exemple. On le voit bien dans les annonces de la passion dans Saint Marc, ou dans les autres, mais bon. Quand Jésus annonce sa passion, tout de suite après, Pierre dit, c'est pas possible, ça va pas t'arriver. Vous savez, il se rebelle un peu. Et tout de suite, Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, etc., etc., etc. C'est-à-dire, je suis en train de vous parler de ma passion, vous ne la comprenez pas. Eh bien, si vous voulez la comprendre, prenez votre croix. Et donc, il y a toute une réflexion de Jean-Paul II dans le sens chrétien de la souffrance, où il dit que pour comprendre le mystère de la croix, il nous faut entrer nous-mêmes dans le chemin de la croix pour être avec le Christ dans une unité de destinée en quelque sorte. Voilà. Ça va? Et en lui, ça veut dire que le baptême nous fait habiter dans le Christ. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes en lui. Quand Jésus parle de la vigne, des sarments, on voit bien qu'il y a un mystère de compénétration. Nous ne sommes pas simplement avec lui, hein? Un petit peu comme Jésus, comme le grain qui tombe en terre, et puis moi aussi, un autre grain à côté qui tombe en terre, comme deux grains. Non, non, je suis un même grain, je suis une même vigne, un même corps. Hein? Voilà. Et du coup, vous voyez, ce par lui, avec lui, en lui, m'invite aujourd'hui à faire ce que j'appelle, non pas les œuvres de, comment dire, non pas des œuvres pour Dieu, mais l'œuvre de Dieu. Dans notre vie, il y a beaucoup de chrétiens qui font des œuvres pour Dieu. Pourquoi on fait des œuvres pour Dieu? Parce qu'on n'est pas avec lui. Quand vous n'êtes pas avec lui, que vous n'êtes pas en lui, que vous pouvez pas, vous ne voulez pas passer par lui, c'est-à-dire en apprenant de Jésus, doux et humble de cœur, cette manière de faire, cette école de l'amour. L'évangile est une école de l'amour. Jésus, cette manière d'être de Jésus à travers sa parole, mais plus largement, hein. Jésus nous apprend à être chrétien. Est-ce que je veux passer par cette école-là ou pas? Si je ne passe pas par cette école, si je ne fais pas les choses avec lui, en union avec lui, en étant carrément collé à lui, configuré à lui, en lui, eh bien je vais faire des œuvres pour Dieu, mais pas des œuvres de Dieu. Hein? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Vous voyez la différence entre faire des œuvres pour Dieu. Moi, je peux très bien faire des tas d'œuvres pour Dieu qui ne sont pas l'œuvre de Dieu. Je me dis, ben moi, ce que j'aime bien, je sais pas quoi. Des tas de trucs, je vais donner un cours sur je sais pas, Thérèse d'Avila et puis la vie monastique pour ma paroisse. Mais peut-être le Seigneur il va me dire, les gens ils n'ont pas besoin d'un cours sur Thérèse d'Avila, c'est très bien. Mais oui, mais je veux faire des choses pour toi. Oui, mais ça t'intéresse toi. Mais la paroisse elle n'est pas intéressée par un truc de Thérèse d'Avila. Donc. Et on peut comme ça sans cesse aller faire des choses en fait, mais en fait, c'est du bruit, c'est du vent, c'est de la paille, ça sert à rien. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ah ben là, il n'y a pas de discernement. Le devoir d'État, c'est la base, oui. Oui, ça. Il y a des choses où il n'y a pas de discernement. Hein, ne pas pécher, faire son devoir d'État, ranger sa chambre, sa maison, faire à manger, aimer ses enfants quand on en a. Ça, il n'y a pas. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en plus? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, et comment tout ça, on le conduit? Vers quoi on le conduit? Et qu'est-ce qu'on fait de sa vie, plus généralement? Oui, la question œuvre de Dieu ou œuvre pour Dieu concerne en particulier ceux qui font des choses un peu pour l'Église. Bon, il y a des tas de gens, enfin. Il y a des choix, il y a des bons choix et des mauvais choix. Vous voyez, quand le pape François écrit dans sa lettre qu'il nous faut vivre une conversion missionnaire, je sais pas, je crois que je l'avais jamais entendu avant. Avant, j'avais entendu dans les lettres des papes et tout ça qu'il fallait se convertir nous-mêmes. On nous exhortait beaucoup à la piété, faut se convertir, faut adorer, tout ça. Bon. J'avais déjà entendu qu'il fallait convertir les gens. Il faut évangéliser, tout ça, il faut parler de Dieu. J'avais jamais entendu qu'il fallait convertir nos moyens de convertir. Il y a des manières de faire qui ne sont pas bonnes. C'est ça que vient le pape François en train de nous dire, écoutez, le but, ce n'est pas d'en faire plus, vous en faites assez. Mais c'est de faire ce qui est possible que vous fassiez compte tenu de l'appel de Dieu, de ce que vous êtes, et de ce que sont les gens réellement, pas imaginaires, quoi. Quels sont les gens réels? Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir l'odeur des brebis. Il dit qu'il faut aller voir les gens, parce que si vous êtes là dans votre tour, là, pas quoi dans vos bureaux, à créer des projets pour les gens, mais que ça ne les intéresse pas, il y a un problème. Donc commencez à être au milieu des gens, voyez qui ils sont, aimez-les, allez au club de foot si vous faites du foot, discutez avec les personnes. C'est plus dur de discuter avec les personnes qui sont au club de foot, hein, quand on conduit son enfant, qu'à la sortie de la messe. À la sortie de la messe, c'est plus facile que... On a des amis, ils sont chrétiens. Mais oui, mais ton projet, tu vas le réaliser avec la personne qui est au club de foot plus qu'avec la personne qui est à la sortie de la messe. Enfin, c'est les deux, quoi. Voilà. Parlez avec lui et en lui. À toi tout honneur et toute gloire, hein, pour les siècles des siècles. Amen. C'est fini.